Dernier épisode de l'année, et traditionnellement, pour la deuxième année consécutive, on va faire le bilan de l'année 2021. Avec Benoît, on a tous les deux préparé un top 10 des choses à retenir de cette année de chargée en badminton. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally.
Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that!
Je suis accompagné de Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, bonjour à tous.
Bon Benoît, on y est déjà. J'ai l'impression que hier encore, on faisait notre bilan de l'année 2020. Là, on va faire déjà 2021. Et on le disait juste avant de commencer à enregistrer, c'est une année qui a été bien chargé, beaucoup plus que l'année dernière. Les deux années ont été particulièrement touchées par le Covid, mais là au moins on a eu beaucoup de tournois concentrés à certains endroits. Bref, beaucoup de choses à dire.
Ouais, clairement, beaucoup de tournois, beaucoup de choses à dire. Peut-être trop, on va en reparler aussi, mais par rapport à l'année dernière, je pense que le bilan de l'année va être beaucoup plus dense que celui auquel vous avez eu droit il y a un an.
Donc, voilà comment on va procéder. On l'a déjà fait donc l'année dernière et pour d'autres occasions. On a chacun fait un top 10 des choses à retenir de cette année. On va commencer chacun par notre numéro 10, celui de Benoît, après le mien, ensuite on fera le numéro 9, etc. On ne s'est pas consulté pour le classement, donc on peut avoir des choses qui reviennent dans nos deux classements, mais dans ce cas-là, on en parlera à deux moments où, avec chacun de nos choses différentes à dire. Et on terminera à la fin par nos mentions, ce qu'on n'a pas pu mettre dans le top 10, et voilà ce qu'on a pensé globalement. Cette année, Benoît, je vais te laisser commencer tout de suite avec ton numéro 10 des choses à retenir de cette année 2021 sur la planète BAD.
Eh bien, on va démarrer très tranquillement avec l'équipe de France. J'ai nommé mon numéro 10 la transition de l'équipe de France. Du coup, c'est un peu pour tout englober parce que j'imagine que tu vas nous parler aussi de l'équipe de France, mais ça parlait de la demi-retraite de Émilie Lefel qui est en train de se retirer, le retrait pareil de Brice Leverdez en simple, la montée en puissance des Popov, la montée en puissance de Jikel Delru, de Delru Villéger, la nouvelle paire Corvée-Labarre, les montées en puissance de Merkley et Lagnier, voilà. Dans cette partie, je dirais pas que c'est un fourre-tout, mais c'est pour dire que l'équipe de France est un peu en transition entre les jeunes, les vieux, les nouvelles paires, donc voilà, c'est quelque chose qui va être important, je pense, dans les années à venir, parce qu'avec l'arrivée de Paris, c'est un travail vraiment qui est important et qui a démarré avant 2021, mais je pense quand même que là, l'équipe de France est en transition.
Et cette transition, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce que c'est plutôt, là on va vivre des années un peu de galère? Est-ce que c'est plutôt de l'espoir en disant là on a des bonnes années qui arrivent? Est-ce qu'il y a des tableaux qui te font un peu plus peur que d'autres? Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que ce serait malhonnête de dire que tout va bien se passer et qu'on va faire 10 médailles au JO 2024. C'est pas ce qui va arriver. Clairement, faut pas se leurrer. En simple dame, c'est très compliqué d'avoir des joueuses du top 20 mondial aujourd'hui. En double dame, c'est un peu le même débat. Les tableaux, clairement, où il y a du potentiel et où il y a un vivier incroyable, c'est le simple homme, potentiellement le double homme et évidemment le double mixte avec Jikel Delru. Voilà, je sais pas si tu partages cette analyse, mais c'est vrai que ça commence à être assez visible maintenant à quelques années de Paris 2024.
C'est vrai que limite en simple homme, on va avoir un petit embouteillage.
Ouais.
Parce que je pense que si j'ai bien compris, on aura deux places pour Paris 2024. Bon, là, on se projette déjà pas mal puisqu'on était censé parler de cette année. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que font les deux frères Popov, quand tu vois ce que fait Arnaud Merkley, quand tu vois ce que fait Alex Lanier, qui a gagné en Italie quelques jours avant qu'on enregistre cet épisode, c'est vrai que tu te dis que le simple homme, c'est vraiment pas le tableau qui me fait peur pour la suite.
Ouais.
Par contre, le simple dame, c'est vrai que... voilà, on l'a dit, on va pas le retirer. Marie Batomen fait des bons résultats en ce moment. Yael Oyo joue pas mal non plus, mais ça va être compliqué. Il reste encore beaucoup d'écart entre elle et les joueurs du top mondial. Et je vois pas trop. Chichou Fei, elle est jamais laissée tranquille par son corps. Et je vois pas dans les catégories juniors qui pourrait venir jouer les premiers rôles. Donc voilà, après, en double, moi j'aime bien ce que fait la barre Corvée, mais c'est clairement pas le choix de l'avenir, quoi.
Bah écoute, c'est ça, voilà. C'est tout ce que je voulais souligner à travers ce point, mais on aura peut-être le temps d'en reparler avec un certain numéro. Je sais pas si tu vas nous en parler. Mais écoute, j'aimerais bien connaître quand même ton numéro 10.
Mon numéro 10, j'ai mis Han Se-young, future reine du simple dame. C'est particulier parce que cette année, c'est pas l'année de la révélation. Elle a gagné les IFB il y a 2 ans déjà, Han Se-young, donc on la connaissait déjà. Mais je trouve qu'elle est en train de prendre une autre dimension. Et ça se voit pas forcément quand on voit que bah, cette année, elle a pas eu de médaille au JO et pas de médaille aux mondiaux. Mais quand même, elle fait quand même le triplé sur la tournée indonésienne avec le Super 750, le Super 1000 et les Finals. Et globalement, je trouve que dans une année où on n'a pas vu Carolina Marin, on a peu vu Tai Tsui-ying, on a surtout vu Han Se-young et Yamaguchi, même si j'aurais pu faire un point sur Yamaguchi qui est très forte, mais voilà, Han Se-young monte vraiment en puissance, elle est en train de prendre une autre dimension, et je trouve qu'on ne le répète pas assez, parce que c'est comme... voilà, c'est par exemple le fameux « tu me parles pas d'âge » de Kylian Mbappé, mais c'est un peu pareil pour elle, elle n'a que 19 ans, et ce qu'elle fait déjà, c'est incroyable. Donc évidemment, c'est un tableau très compétitif, le simple dame, où il y a des jeunes, notamment par exemple chez les Chinoises, qui peuvent sortir et exploser en quelques années, mais je pense que Han Se-young, ça peut être l'attraction, une des attractions majeures du BAD, tout tableau confondu, sur les 10 années à venir. Je l'espère pour elle d'ailleurs, donc voilà, je voulais en parler parce que ça a été une grosse année pour Han Se-young.
Oui, bah c'est tout ce que je lui souhaite d'être une attraction du BAD mondial pendant les 10 prochaines années, et je pense qu'en plus elle a le profil pour c'est peut-être un peu fou de dire ça, mais amener le BAD là où l'ont amené Lindan et Li Chongwei, tu vois, par exemple. Je trouve qu'elle a ce profil vraiment où elle peut être beaucoup aimée par tout le monde, même en Europe pour une Asiatique. Et toutes les joueuses n'ont clairement pas ce profil-là. Ça a été le cas avec Intanon, ça a été le cas avec Tai Tsui-ying. Mais c'est vrai que toutes les joueuses asiatiques ne sont pas beaucoup aimées en Europe. Et je pense que Han Se-young a ce profil-là. J'ai amené le simple dame sous un autre prisme, donc j'en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que tu as raison de parler d'Han Se-young, clairement... Je pense que pour ceux qui la connaissaient pas encore, voilà, cette année, on sait maintenant que Han Se-young, il faut compter sur elle sur les prochaines années, évidemment.
Clairement, pour finir là-dessus, je dis qu'elle a pas de médaille mondiale et au JO, mais c'est clairement une des joueuses pour lesquelles je m'en fais le moins. Oui. Ça m'étonnerait qu'elle termine sa carrière sans médaille dans ces deux disciplines. Donc voilà, celles qui sont devant sont pas très vieilles. Voilà, Tai Tsui-ying est encore jeune, Yamaguchi, Okuhara, Sindhu, même Marine, mais je pense qu'elle elle est clairement pas au bout de son potentiel, et je pense qu'elle peut vraiment régner sur la discipline. Donc je voulais en parler d'Han Se-young. Benoît, quel est ton numéro 9?
Je sais que peut-être que vous allez considérer que c'est pas très important, mais je l'ai nommé le Badminton England Gate. Honnêtement, c'est compliqué de l'avoir mis dans le top 10 parce que c'est clairement pas un point positif, on va pas se mentir. Là-dedans, j'ai mis l'élément majeur, la sélection de Ben Lane et Sean Vendy au détriment de Ellis Langridge à Tokyo aux Jeux Olympiques, alors que ils étaient derrière au ranking et que la place elle a été gagnée par Ellis Langridge. Je comprends les arguments du choix de l'avenir, etc. Mais pour vous donner des chiffres, ils n'ont pas gagné un set aux Jeux Olympiques. Ils n'ont pas gagné un match aux Mondiaux. Ils se font sortir en quart des championnats d'Europe. La saison de Lane Vendy, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas gagné un match depuis la finale à Orléans où on était tous les deux. Donc j'espère qu'on leur a pas apporté la poisse. Mais voilà, ça fait 8 mois que Lane Vendy n'ont pas gagné un match. Je trouve ça assez catastrophique, surtout que on parle de Lane Vendy, mais en vérité, les répercussions, elles sont plus grandes que ça. C'est-à-dire que je pense que le niveau d'Ellie Smith aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact, même si on ne l'a pas tout de suite vu à Tokyo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de performer, alors que ça ne va pas avec ta fédération. On a bien vu que toute la bande du badminton britannique était pote, et puis il y avait Lane Vendy à côté, c'est quand même très compliqué. Donc je pense que Badminton England, donc la fédération anglaise, s'est bien mise dans la sauce et toute seule. Et je pense qu'en plus de ça, ça a clairement pas aidé Lane Vendy. Donc c'est vrai que c'était un point chaud qu'on avait évoqué plusieurs fois, et moi c'est vraiment un des éléments marquants de l'année. Je l'ai pas mis plus haut parce que ça concerne entre guillemets que le Royaume-Uni, mais voilà, je voulais revenir là-dessus.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est assez... En fait, c'est très inhabituel parce qu'on sait qu'elle existe, cette règle de tu peux envoyer qui tu veux, pas forcément la paire ou le joueur qui se qualifie, mais en fait elle est très rarement appliquée. C'est quasiment tout le temps où les fédérations envoient la paire qui se qualifie en fait. Et c'est vrai que là ça a fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses là-dedans, tu l'as dit. Et finalement, personne n'en bénéficie. Le dindon de la farce, c'est Chris Langridge qui a arrêté sa carrière là-dessus. Il a montré sur Instagram qu'il était très frustré. Pour lui, ça a été très dur à encaisser. Ça n'a pas été Lane Vendich, tu l'as dit, qui n'ont pas gagné un match depuis longtemps et qui sont allés faire de la figuration au jeu. Ça n'a pas aidé même Marcus Ellis et Lauren Smith aussi, puisque du coup, eux ont montré leur mécontentement. Du coup, que ce soit Ellie Smith ou Burt Smith, elles ne sont plus coachées par les coachs de leur fédération. Donc ouais, je comprends que ce soit important. Pour moi, c'est un peu la suite de ce qui s'était passé avec cette histoire de financement d'il y a quelques années, où ils avaient retiré les financements de tout le monde sauf les Adcock. Et là aussi, ça n'avait fait du bien à personne. Donc voilà, on connaît pas mal les joueurs anglais, puisque du coup, après cet épisode, je crois qu'il y a eu un problème avec les clubs aussi, donc il y a eu une genre d'exode où maintenant il y en a beaucoup qui jouent en top 12, mais ouais, je comprends que tu l'aies mis, parce que c'est assez important, donc voilà.
Et on est bien revenu là-dessus, mais j'aimerais, du coup, j'imagine que comme t'en as parlé, tu l'as pas forcément dans ton top 10, mais j'aimerais bien connaître ton numéro 8. 9, pardon, oui. Je veux déjà parler du top 3.
Tu as raison, t'as bien fait de parler des Anglais parce que moi je ne l'ai pas mis. Moi je me suis concentré sur la France, toi tu en as parlé un peu dans ton 10, donc je vais faire assez rapidement. Mais moi je me suis principalement concentré sur la montée en puissance de Thomas Junior Popov et de la paire Jikel Delru. Thomas Popov, c'est 2 victoires à Orléans et en Espagne, le premier Super 300 pour lui. Un premier Super 300 aussi pour Jikel Delru qui ont gagné en Suisse. Donc voilà, notamment avec Jikel Delru, on est resté sur une note plus négative en fin d'année, mais il ne faut pas oublier que même si ça appartient à la saison 2020, la tournée en Thaïlande était en 2021, donc nous on va la couvrir dans cet épisode. C'est là notamment qu'ils participent aux Finals, ils font demi-finale aux Finals et ils font demi-finale sur le premier tournoi en Thaïlande. Donc grosse année pour eux, entrer dans le top 10 pour Tom Jikel et Delphine Delru. Et voilà, un peu la même chose pour Thomas Popov qui est en train de prendre une autre dimension. Donc voilà, je voulais le dire, parce que c'est, même si j'aurais pu parler aussi de Christo et de la bonne année des deux frères Popov en double, tu l'as dit, la Bar Corvée qui font une année très correcte aussi, mais c'est surtout sur Thomas Junior Popov et sur la paire Jikel Delru que je voulais insister.
Bien sûr, assez logiquement, enfin, les deux ont fait 2 très bonnes premières parties de saison. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier sur la deuxième, parce que les jeux de Jikel Delru, parce que Thomas Junior Popov absent des mondiaux, mais bon voilà, c'était pas une question sportive. Et je pense clairement que presque limite, ça aurait pu monter dans ton classement, tu vois, à mon avis, s'il était venu aux mondiaux, parce que je trouve qu'il allait mieux ces derniers temps et il est dans le top 25 mondial. C'est pareil pour lui, je pense que c'est un palier à passer. Jikel Delru, le palier du top 10, je pense qu'il y a encore du boulot, mais voilà, aujourd'hui pour moi c'est une paire du top 15, voire top 20 si on veut discuter tous les jours, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en France, voilà, donc faut pas cracher non plus sur les performances de Jikel Delru, même si évidemment c'était peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer sur les mondiaux et les jeux.
Je suis totalement d'accord avec toi, donc voilà, ça méritait une mention, et j'espère que cette paire et ce joueur pourront continuer. Évidemment, j'en attends pas mal aussi de Christo pour cette année 2022. Lui, on sait qu'il commence à rentrer dans les tournois seniors. On l'a vu battre Ginting, qui est quand même un palier assez important, et j'espère que Christo, j'espère qu'on le verra beaucoup jouer en 2022, parce que mine de rien, on l'a pas vu tant que ça jouer en simple en 2021. Donc j'espère qu'on se revoit dans un an et que dans mon top, il y a Christo Popov. Benoît, quel est ton numéro 8, s'il te plaît?
Du coup, mon numéro 8, c'est un point un peu négatif, pareil. Ça concerne, je vais dire, les blessures des joueurs et les absences. Alors, il y a deux choses là-dedans. D'un côté, il y a le Covid, évidemment, avec les absences dues au Covid, aux tests positifs. Je pense là tout de suite maintenant aux frères Popov qui ont malheureusement raté les mondiaux. Mais je pense aussi aux championnats d'Europe où il y a deux finales qui ne se jouent pas, donc celle du simple homme et celle du double homme. Je pense aussi au Woodcock, parce que voilà, je viens d'y penser, je ne l'avais pas noté, mais ça a probablement mis fin à leur carrière quand même. Faut pas oublier ça. Et l'Indonésie qui fait le choix de pas aller aux mondiaux à cause des conditions sanitaires, la Chine qui fait le choix aussi de pas vraiment jouer la saison parce que on a vu la Chine sur quelques grands événements, mais c'est à peu près tout. Et de l'autre côté, il y a les choix de la BWF, c'est-à-dire que l'accumulation des tournois, voilà, pour moi c'est un point de la BWF qui a fait, j'ai plus la stat, mais tu me l'avais sorti du nombre de blessures sur les 8 semaines de compétition en Europe, c'était assez dingue, et je pense que la BWF était responsable de ça, et ça a un petit peu gâché une partie de notre saison, à mon avis. Voilà, je voulais revenir là-dessus, j'imagine que c'est peut-être quelque chose dont tu vas parler aussi.
Ouais, je vais en parler, pour moi c'est encore plus, j'ai mis encore plus haut. Okay. Donc là, je vais pas en parler tout de suite, mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est un truc, j'en parlerai. I'm the bad guy. Take that. Moi, mon numéro 8, j'ai mis, je pense que tu en as parlé aussi, j'ai mis Oli Rahayu, mon coup de cœur des JO.
Ouais.
Au début, je voulais faire plus largement un focus sur le double dames, parce que je trouve que dans une année où il y a pas mal de tableaux qui ont été assez décevants parfois, je trouve que le double dames reste très intéressant, alors que c'est pas le tableau qui m'attire le plus de base, mais je trouve que voilà, j'ai pas mal été intéressé par le double dames cette année. On a notamment les deux paires coréennes, Lee Shin et Kim Kong. On a les deux paires japonaises, mais même quand elles étaient pas là, voilà, on a eu Chen Jia. Mais surtout, Pauli Rahayu, je pense que c'est la victoire, c'est même sûr d'ailleurs, c'est la victoire au jeu des 5 finales qui m'a donné le plus d'émotions, largement. On voyait que ça représentait énormément pour elle. C'est celle que j'avais vue le moins venir, parce que déjà, quand je les avais vues face à Chen Jia, je ne les voyais pas gagner. Et finalement, elles font ce qui est peut-être le match de leur vie. Grey Chapoli, elle revient de loin. Elle avait été disqualifiée au jeu 2012. Elle avait hésité à arrêter après... 2016, je crois, finalement, elle joue avec Apriani Rahayu et c'est une paire qui est, allez, on va dire top 10, top 5 mondial, mais que personne ne voyait gagner les jeux. La première pour l'Indonésie, elles ont été célébrées comme des énormes stars en Indonésie, ce qu'elles méritent. Je me souviens de l'image ultra sympa, le genre de câlin collectif avec toutes les paires sur le podium. Donc pour moi c'était trop cool et c'est vraiment le highlight de ces jeux pour moi. Donc voilà, Pauli Rahayu, je voulais en reparler parce que ça a marqué l'année. Et le fait qu'en plus, je finis là-dessus, que Grey Chapoli, toi et moi on pensait qu'elle allait arrêter et finalement on l'a vu un peu plus et on la reverra peut-être, pour moi je trouve ça très cool et voilà, mon coup de cœur.
Écoute, j'en parle tout de suite puisque c'est mon numéro 7, donc c'est parfait.
Parfait.
Ouais, pareil. Alors, ouais, moi aussi, c'est probablement la finale qui m'a le plus fait vibrer au jeu. En tout cas, le titre qui m'a le plus fait vibrer au jeu. Même si je reparlerai d'autres après, Pauli Rahayu, c'était vraiment un coup de cœur parce que moi, j'ai eu l'impression aussi que c'était un coup d'éclat, un coup de génie le jour J. Pauli Rahayu, évidemment, c'est une paire du top 5, top 10 mondial si vous n'êtes pas d'accord tous les jours. Mais Pauli Rahayu, c'est une paire qui est souvent placée et qui gagne peu. Il n'y a pas beaucoup de grands titres, voilà, et sauf que sur une semaine aux Jeux Olympiques, elles ont été capables d'être incroyables, tout simplement. Si vous voulez évidemment entendre parler des matchs plus en détail, vous pouvez écouter nos lives ou notre débrief des Jeux Olympiques, mais c'est vrai que c'était un coup de cœur. Grey Chapoli, tu l'as bien dit, elle a failli arrêter sa carrière à plusieurs reprises, il y a eu des désastres aux Jeux Olympiques, sincèrement. Je pense que c'est une des joueuses qui a connu le plus de tourmente dans l'histoire des jeux. C'est la médaille olympique la plus âgée de l'histoire au badminton et c'est la seule paire indonésienne sacrée en double dame dans l'histoire du badminton. Donc voilà, pour ces raisons je pouvais pas ne pas en parler et c'est vrai que l'histoire est assez belle, même si finalement on sait pas si Grey Chapoli est combien de temps et si elle va continuer, mais voilà, c'était une des magnifiques histoires des Jeux Olympiques, elle est là.
On va tout de suite passer à mon numéro 7. Look at this, look at that. Alors mon numéro 7, Benoît, j'ai mis année charnière pour la Chine. Mm-hmm. Parce que c'est assez compliqué. de juger l'année chinoise déjà parce qu'il y a eu énormément de joueurs absents. Ils ne sont pas allés à plein de compétitions à cause, à cause du Covid tout simplement, puisque voilà, notamment en Indonésie, il n'y avait pas les Chinois, et pour certains tournois en Europe aussi. Quand tu regardes les JO, au final, il y a deux titres, celui de Wang Wang en mix et celui de Chen Yufei en simple dame. Et il y a des médailles d'argent, Chen Long, Zheng Wang et Chen Jia. Donc le bilan paraît très très bon, mais j'ai quand même un peu peur pour la suite, notamment dans deux tableaux, c'est le simple homme et le double homme. Pour les autres, je m'en fais pas, surtout en mixte où Zheng Wang et Wang Wang paraissent quand même, j'en reparlerai, mais au-dessus du reste quand ils sont là et quand ils sont en forme. Chen Jia, c'est parti pour durer, et que ce soit Chen Yufei ou He Bingjiao ou les autres qui arrivent derrière, je pense que le simple dame, même si c'est pas des joueuses qui gagneront à chaque fois, ça reste solide. Par contre, en simple homme, Shiyushi, on en reparlera peut-être, mais il est un peu dans le flou, lui aussi est souvent blessé. Et Chen Long est en pré-retraite et il sera bientôt malheureusement à la retraite. Et en double homme, c'est la fin de Li Liu, donc surtout Li qui a pris sa. Li Liu, on ne sait pas encore ce qu'il fait. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec les autres paires. Là, on a vu Ethan qui sont vice-champions du monde, mais au final, visiblement, ils vont pas jouer à deux. Ils vont plus jouer à deux, donc voilà. La Chine qui à la fois a des bons résultats à peu près partout au JO, mais qui est dans le flou pour certains tableaux, alors que dans deux, je pense qu'ils ont de quoi voir venir. Je pense qu'on en fera un épisode spécial, peut-être au mois de février, quand on aura un peu plus le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça méritait une mention, parce que pour moi, c'est quand même un fait majeur de cette année.
C'est clairement un fait majeur de cette année. J'avoue que j'ai un peu triché parce que je me doutais que t'allais en parler, donc du coup je l'ai pas mis dans mon top 10. Et en même temps, je partage à peu près, tout ce que t'as dit en fait. Et j'aimerais juste rajouter quand même que la Chine a gagné l'Uber Cup, la Sudirman Cup et a fait finale de la Thomas Cup. En fait, c'est ça qui est assez paradoxal avec cette équipe chinoise, c'est que toi et moi, à chaque fois, on avait dit, au début des compétitions, on avait dit ah, la Chine. Oui, ils ont un effectif pas mauvais, mais ça va être compliqué. Et en fait, à chaque fois, au pire, ils sont deuxième. Au championnat du monde, ils font un titre, quatre médailles. Alors que pourtant, l'équipe, elle est pas au complet. Et c'est vrai que c'est toujours paradoxal avec la Chine. Maintenant, je partage totalement tes inquiétudes sur les tableaux que tu as cités. Parce que en double dame, moi je suis pas du tout inquiet. Tu t'as parlé de Chen Jia, mais toutes les autres paires qui jouent deux fois par an et qui sont capables d'aller chercher des titres en Super 1000, ça prouve bien qu'il y aura aucun souci pour la Chine. Et je pense que les joueuses qu'on a vues au championnat du monde, les très jeunes chinoises en simple dame, je parle pas de Chen Yufei et Bingjiao qu'on connaît, je parle des autres, nous ont prouvé qu'il y aurait pas forcément de problème. En simple homme, tu vois, c'est vrai que je partage un peu ton analyse. Alors oui, il y a des bons joueurs, c'est pas la question. Mais la Chine, c'est pas des bons joueurs dans son histoire qu'elle a eue. C'est Chen Jin, c'est Chen Long, c'est Lin Dan, c'est Sun Yun, c'est des icônes. Donc on demande pas à Li Shifeng d'être top 20 mondial, c'est pas ça. On demande à des joueurs chinois d'être top 3 au pire et de gagner des titres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en double homme et en simple homme, ben je suis pas sûr qu'ils en soient capables. Surtout qu'en double homme, toutes les paires viennent d'être changé, on peut dire, je pense. À l'heure actuelle, on les connaît pas toutes, t'as raison de le signaler, mais je garde des billes parce que c'est vrai qu'on fera probablement un épisode entier. Mais c'est vrai que la Chine, c'est un flou assez bizarre et assez étonnant.
Et puis c'est vrai qu'on pouvait pas ne pas parler de la Chine parce que c'est historiquement le pays qui réussit en badminton. C'est eux qui, voilà, dominaient pendant des années, entre 2000, depuis les années 2000, c'est eux qui dominent les tableaux. Donc là, ils vivent une année où finalement, ils n'ont quasiment rien gagné. Quand on prend les plus gros tournois de l'année, outre les mondiaux, il y a juste le titre de Wang Zheng au Danemark, auquel tu faisais référence en double dame. Mais c'est vrai que le fait qu'ils étaient absents avec leur politique très particulière, où ils ne prennent pas de risque avec le Covid, a clairement joué. Mais ça a laissé des places aux autres. Et à la fois, même s'ils avaient été là tout le temps, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait une moisson de titres comme ils pouvaient le faire il y a quelques années.
Ils l'auraient fait sur les tableaux qu'on a cités, le double dame, le double mixte et peut-être le simple dame. Et encore, je ne suis pas sûr, mais les deux autres tableaux, non, quasi impossible.
C'est vrai. Benoît, quel est ton Numéro 6, si je ne me trompe pas.
Exactement. Mon numéro 6, c'est peut-être mon deuxième coup de cœur des JO et mon deuxième coup de cœur de la saison. C'est les Taïwanais Li Wang. J'ai vraiment kiffé, vraiment, sincèrement, leur jeu, que ce soit en Thaïlande ou en début de saison où ils font le triplé. C'est un peu là où on s'est dit, wow, ils sont quand même assez forts, voire incroyables. Et puis après, il y a eu la magie des Jeux Olympiques. Est-ce que je peux spoiler? Est-ce que tu l'as dans ton top 10?
J'ai pas de point spécial pour eux, donc tu peux y aller.
Ok, merci. Au jeu, voilà, pour rapidement raconter l'histoire, ils perdent leur premier match face à Rankin Redichetti et ils sont quasiment éliminés en fait des jeux parce qu'il faut battre les Minions en 2-7 avec des conditions, voilà, avec des conditions compliquées. Sauf que ils le font et derrière ils sortent de poule, ils tapent Endo Watanabe, Hassan Setiawan et Liliu. Enfin, honnêtement, c'est la magie des jeux. Et puis ils ont été tout simplement incroyables. Et ils étaient vraiment sur une autre planète. Première médaille d'or au BAD pour Taipei. Enfin voilà, tout simplement. Moi, j'ai vraiment kiffé la saison de la première partie de saison de Liliu. C'est aussi pour ça que je les ai pas mis plus haut, parce que la deuxième partie de saison est clairement pas ouf, avec la déception des mondiaux pour couronner une deuxième partie de saison relativement moyenne. Mais c'est vrai que j'étais obligé d'en parler pour cette première partie de saison et ce titre olympique.
Ah, c'est vrai qu'on les a vus, j'aurais vite fait parce que je les ai mis dans un point oui. Plus large. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, le 1er janvier 2021, Li Wang, ça restait une paire plutôt de seconde zone, quoi, qui est relativement récente, hein, oui. Puisqu'ils avaient des partenaires différents. En plus, Li, ils jouaient avec Li et ça marchait déjà pas mal. Ils ont gagné aux IFB. C'était un pari de la fédération taïwanaise qui a évidemment porté ses fruits. À chaque tournoi en Thaïlande, on s'est dit, ils gagnent celui-là, ils feront pas le deuxième. Ok, ils feront peut-être pas les finals. S'ils gagnent les finals, on s'est dit, ok, il y avait pas les Minions. Ils jouent contre les Minions au JO, ils les battent. Ils perdent leur premier match, mais tu l'as dit, après ils vont au bout. Donc là, on s'est dit, ah ok, donc maintenant, ce sera eux et les Minions qui vont rouler sur le double homme. Eh ben non, parce que d'une, les Minions sont pas au top. De deux, parce que Li Wang, bah, ils ont fait une partie, tu l'as dit, une deuxième partie de saison pas terrible. Et de trois, parce qu'il y a Oki Kobayashi qui sont eux aussi sortis de nulle part et qui ont fait une fin de saison de rêve. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, Li Wang, il faut les mentionner. Et j'ai hâte de voir sur la durée le niveau qu'ils vont afficher, tu vois.
Bah écoute, moi aussi, parce que voilà, c'est un peu comme Oki Kobayashi, ils ont fait une deuxième partie de saison très bonne, la première on les avait pas trop vus, Li Wang c'est l'inverse. Moi je demande à voir sur la durée, je jugerai personne sur 6 mois, même si évidemment que ce soit l'un ou l'autre, on n'enlèvera jamais les titres qu'ils ont gagnés. Mais voilà, la durée ça va être très important, et du coup je te demande à toi Ewan, quel est ton numéro 6?
Alors mon numéro 6, moi je suis parti sur le mixte, et je l'ai intitulé Thaïlandais et Japonais, roi du mixte en l'absence des Chinois. Parce qu'on a bien vu au jeu que Wang Wang et Zheng Wang, c'était un peu meilleur que tout ce qu'il y avait d'autre en mixte. Par contre, ils ont été là quasiment jamais. Et du coup, je voulais parler de Puawaranukro Tairatanachai et Watanabe Higashino. Pour vous dire, à eux deux, ces deux paires-là ont gagné les Finals, le All England, le Denmark Open, l'Indonesian Open, le French Open, l'Indonesia Masters, le ILO Open et les championnats du monde. Donc voilà, 1, 2, 3, 5 titres pour les Thaïlandais, 3 pour les Japonais. C'est clairement les deux paires qui ont roulé sur la compétition en mixte cette année. C'était plus ou moins attendu, on va dire, pour Watanabe Higashino, qui était peut-être plus connu. Mais je trouve qu'avec ce qu'on a vu l'année dernière, pour moi, les Coréens, par exemple, Seo Shae, et surtout les Indonésiens Jordan Octavianti auraient pu venir aller chercher des titres là-dedans. Il y a une paire qui fait que décevoir, on en a assez parlé, c'est Jordan Octavianti, et Seo Shae, ils ont également déçu, on n'en parle même plus d'eux désormais. Donc voilà, je voulais parler de ces deux paires. Deux paires qui bah, du coup se sont croisées énormément ces derniers temps, souvent à l'avantage des Thaïlandais, qui ont des jeux assez opposés, et aussi assez différent de ce que proposent les Chinois, mais qui ont chacun des... Bah, y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ces deux paires au niveau du style et même au niveau des personnalités. Voilà, je trouve ces deux paires que j'aime bien voir au top en mixte, et j'espère qu'ils pourront aller chercher les Chinois sur une année plus classique en tout cas. Mais voilà, je voulais parler de cette formidable AD de Watanabe et Gashino qui l'ont plutôt bien commencé, on va dire, et Poivar Anukro, Taira Tanachai qui l'ont très très bien fini, avec notamment ce titre de champion du monde.
Bah écoute, t'as totalement raison d'en parler. Moi j'en ai fait un point où il y a juste Poivar Anukro, Taira Tanachai, et spoiler, je l'ai beaucoup plus haut, donc je parlerai d'eux un peu plus tard. Mais pour revenir sur Watanabe et Gashino, la fin de saison a été un peu plus compliquée, on a senti que c'était plus dur physiquement, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et notamment face à ceux que tu viens de citer, les Thaïlandais, qui ont clairement trouvé des solutions hein, pour les battre, parce que c'est, alors, je sais pas si c'est eux qui les privent d'une médaille olympique, mais c'est eux qui les battent en quart de finale en tout cas, et on était très loin de penser que les dernières confrontations, les Thaïlandais seraient capables de leur mettre des sacoches comme ils l'ont fait, donc voilà, c'est vrai que c'était les deux paires je pense de l'année, même s'ils sont pas champions olympiques, mais tout simplement parce que c'est eux qu'on a vu et que les Chinois étaient absents. Après, avec le retour des Chinois, on discutera et faudra voir, mais c'est vrai qu'en 2021, bah, c'est clairement les deux paires de l'année en double mixte.
Benoît, quel est ton numéro 5, s'il te plaît? On entre dans la première moitié, là, ça va commencer à parler sérieusement.
Effectivement, ça va commencer à parler sérieusement et je sens que mon numéro 5 va faire un tout petit peu jaser. Parce que mon numéro 5, tout simplement, c'est l'année de Victor Axelsen, qui a été monstrueuse. Je sais que, enfin non, je sais pas, mais j'imagine que tu vas en parler. Et je pense que, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez mis plus haut. Moi, je l'ai mis pas si haut finalement, parce que il y a eu les Mondiaux et que c'est pour moi un élément clairement négatif, hein, même si j'espère pour lui et je doute pas qu'on l'oubliera dans quelques années. Maintenant, il perd au premier tour des Mondiaux dans une année qui, à mon avis, ça aurait dû être son année et il aurait dû la rendre légendaire en étant champion du monde, sauf qu'il se fait sortir au premier tour par le futur champion du monde. Voilà, ça arrive, mais voilà, ça enlève rien à l'année de Victor Axelsen qui est champion olympique. Je vais peut-être te laisser des billes après, mais voilà, il a choisi de déménager à Dubaï, donc il fait des choix forts, il s'émancipe de la fédération danoise qui est quand même dans le badminton européen ultra organisé et qui quand même permet, ce système permet à des joueurs danois d'arriver au top. Lui il dit bon mais moi je pars à Dubaï, je monte quasiment ma propre académie, je fais venir des joueurs, je m'entraîne tout seul. Voilà, c'est quand même assez courageux de sa part. Voilà, derrière il y a un titre de champion olympique. C'est lui qui a roulé sur la saison en simple homme, clairement. Et voilà, moi c'est top 5. Tous les jours.
Moi, je vais en parler. Je l'ai mis beaucoup, beaucoup.
Eh oui, je me doute.
Je vais pas en parler tout de suite. Je vais passer sur mon numéro 5, du coup. J'ai appelé la drôle d'année de l'Indonésie. Alors, pêle-mêle, absence sur des tournois majeurs, notamment au début de l'année, les All England, pour ce dont on se souvient, hein, ils avaient été obligés de se retirer. Ils viennent pas aux Mondiaux. Ils ont une tournée de 3 tournois à domicile à Bali, qui est très décevante, puisqu'au final, je crois que sur ces 3 tournois, il y a un seul titre, c'est celui de Gideon Sukamulo à l'Indonesian Open. Mais dans les points positifs, dans les autres trucs négatifs, d'autres joueurs, par exemple Ginting, saison très décevante, Christy également décevant, bon lui, il y a d'autres raisons, les Minions très décevants, Jordan Octavianti, j'en parle même pas, c'était vraiment pas ouf, mais il y a deux choses majeures. Déjà, il y a les JO avec la médaille d'Anthony Ginting qui n'était pas forcément attendue, la médaille de bronze. Évidemment, la médaille d'or de Polly Rahayu dont j'ai parlé tout à l'heure. Et surtout, peut-être, cette victoire en Thomas Cup 19 ans après. On sait que la Thomas Cup, c'est incroyable en Asie, surtout pour l'Indonésie. Et donc, voilà, cette victoire qui... Donc, l'Indonésie qui a été capable du meilleur comme du pire cette année, qui a animé pas mal de nos épisodes. Bon, leurs absences à certains tournois à cause du Covid, c'est clairement pas de leur faute, mais voilà, une année dure de juger si on devait juger l'année de la fédération et enfin des joueurs et joueuses indonésiens en un seul bloc. C'est très difficile à juger parce qu'il y a eu du très bon et du très mauvais. Donc je voulais le mettre en numéro 5 parce que ça reste un des pays majeurs du bad mondial, donc pour moi ça méritait d'aller à ce classement.
Ouais, ça mérite clairement. Moi, je l'ai pas rentré dans mon top 10 parce que je jugeais que c'était important, mais pas assez pour l'y mettre. Mais en fait, c'est vrai que t'as raison de souligner tous ces éléments et ce qui fait que la saison indonésienne, elle a été assez, mouvementée, on va dire. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont les joueurs pour régner, Je pense clairement au double homme. Je pense pas à Comignons, hein, parce que à San Sebastián, c'est un peu la fin, mais à la Final Ardiento, ils ont montré parfois qu'ils avaient les armes pour régner, ou en tout cas pour concurrencer les meilleurs paires mondiales. Je trouve qu'en simple homme, Ginting et Christie, bah, ils ont rien à envier à des joueurs du top 5 mondial, sauf que ils sont incapables d'être constants. Mais pourtant, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de battre ces joueurs-là. Après, il y a d'autres tableaux où c'est pas le cas, mais voilà, ces tableaux-là, c'est vrai que ça devrait faire mieux, et c'est pas le cas. Alors, il y a la médaille olympique de Anthony Ginting, certes, mais à mon sens, quand t'amènes les Minions et à San Sebastián aux Jeux Olympiques, c'est une médaille grand minimum, et c'est clairement pas le cas. Alors, c'est vrai que l'Indonésie, on va voir l'année prochaine, j'espère, dans une année un peu plus normale, mais a priori, ça va pas l'air d'être le cas, puisqu'ils seront pas en Inde, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et qu'ils n'étaient pas aux Mondiaux. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de juger l'année indonésienne.
Benoît, quel est ton numéro 4?
Mon numéro 4, t'en as un peu parlé avec Hansae Young. Moi, je l'ai amené sous un autre prisme, c'est la rupture du ligament croisé, pardon, du genou gauche de Carolina Marin. Un an et demi, ou deux ans même après sa blessure au genou droit, la rechute. Et autant l'année dernière, il me semble qu'on l'a mis dans notre top 10 en disant que Carolina Marin, elle était revenue, mais sans être incroyable. Sauf que le début de sa saison 2021, du coup, elle est championne d'Europe début mai. Elle gagne deux titres en Thaïlande et elle fait finale aux finals. Donc sur trois semaines, c'est deux titres et une finale. Elle gagne le Swiss Open. Voilà, et elle gagne les championnats d'Europe en suivant, du coup, je viens de le dire. Et la blessure fin mai à l'entraînement, donc terrible, parce que pas de JO, et on l'a appris plus tard, pas de mondiaux chez elle, dans sa salle. Enfin, c'est assez, assez terrible pour elle, et je trouve que moi, cet événement a rebattu les cartes clairement pour le simple dame en 2021. Je dis pas que Carolina Marin aurait tout gagné, mais elle était en train de montrer qu'elle était revenue à son meilleur niveau, et que peu importe le niveau de tight swing, de Yamaguchi, de Kuara, d'Hansae Young, c'était elle la patronne, et je trouve qu'elle avait vraiment... retrouver toutes ses facultés, et cette blessure, pour moi, elle fait qu'aujourd'hui, tu vois, on parle de Yamaguchi ou d'Hansae Young qui ont gagné des titres, et ça aurait peut-être pas été le cas si Carolina Marin s'était pas blessée, et c'est pour ça que je l'ai mis si haut, parce que je pense que ça a clairement changé tout le tableau du simple dame.
Moi, je l'ai pas mis dedans, mais je voulais le mettre dans mes mentions, okay. Et mon titre, c'était Carolina, tu nous manques.
Ouais, c'est vrai.
Parce que moi, c'est une joueuse que j'adore déjà, et c'est vraiment une joueuse des grandes occasions. Cette année, on en avait deux, on avait les JO. Moi, je réfléchissais déjà, je me disais, si elle fait le doublé après Rio, ce serait incroyable. Déjà, que ce qu'elle a déjà fait, c'est un truc de dingue. Et les mondiaux chez elle, je sais pas si on se rend compte ce que ça doit être de rater des mondiaux dans une salle qui porte ton nom.
Ça doit être terrible. Enfin,
c'est vraiment un truc de dingue. Ouais. C'est dans sa ville. Si ça a été fait là-bas, c'est clairement pas un hasard. Hein. Donc, je suis ultra déçu de pas l'avoir vue. Même quand elle a joué, le début de saison, c'est-à-dire les matchs sans public, notamment son titre de championne d'Europe qui avait pas la saveur qu'il aurait pu avoir dans d'autres. D'autres conditions, donc moi je suis un peu dégoûté. J'ai vraiment peur pour la suite, parce que maintenant qu'elle s'est fait ses deux grosses blessures en deux ans, je sais pas si on pourra la revoir à son meilleur niveau, et si c'est le cas, si on pourra la revoir sur la durée. J'espère qu'elle sera là pour Paris 2024, parce que je trouve que elle mérite, et puis voilà, comme c'est en Europe, je pense qu'elle aura beaucoup de supporters, et je sais que c'est une joueuse qui est pas appréciée par tout le monde, parce que elle a un caractère très particulier. Mais je trouve qu'elle manque vraiment au circuit, en fait. Elle apporte un truc que, dans ce tableau, elle est la seule à avoir, je trouve. Et ouais, elle manque vraiment au simple dame.
Ouais, écoute, je partage totalement. On peut ne pas aimer la joueuse ou le style de jeu, mais il faut reconnaître qu'elle a un jeu quand même qu'on voit pas. C'est la seule à produire ce type de jeu-là, je dirais quasiment masculin, proche du simple homme. C'est une des seules, enfin c'est la seule à mon sens à le produire, en tout cas à ce niveau-là. Et puis, elle a montré qu'elle savait revenir. J'ai envie de croire qu'elle va revenir, et en fait, je pense qu'on a tous pensé à Tokyo et à se dire, si Carolina Marin va chercher un titre, est-ce que c'est la plus grande de l'histoire ou une des plus grandes de l'histoire? C'est des questions qui du coup restent en suspens, et on a l'impression que en fait, il n'y a pas vraiment une réponse, parce que elle a pas perdu sur le terrain, en fait. C'est ça qui est terrible. Et moi, j'espère sincèrement qu'elle va revenir, parce que ton titre, il est très bien trouvé, mais Carolina Marin, elle nous manque.
Moi, mon numéro 4, c'est quelque chose que tu as un peu dit tout à l'heure. J'ai mis le calendrier serré de la fin d'année et ses conséquences. J'ai mis assez haut parce que je trouve que ça a vraiment... ça a vraiment eu un impact fort sur les tournois de la fin d'année. Je trouve que la BWF, c'était une nouveauté, hein, ce calendrier avec le Covid. Et post-JO, on a eu les Finals, on a eu les deux tournois en Indonésie, on a eu les Mondiaux, on a eu la Thomas Cup, le Burr Cup, la Sudirman Cup, les IFB, le tournoi en Allemagne, le tournoi en Danemark, j'en oublie peut-être, et les Mondiaux, évidemment. Et ce qui pouvait paraître trop cool avant, au final, ça n'a pas été, je vais dire, un flop, parce que les tournois se sont plutôt bien déroulés. Il y a eu des cas de Covid, évidemment, mais la bulle en Indonésie, à Bali, a été bien gérée. Les joueurs étaient, je pense, plutôt contents. La plupart ont remercié l'organisation, étaient contents de la façon dont ça s'est passé. Par contre, c'est pas parce que il faut jouer les mondiaux avec les sponsors et tout ce qui se passe qu'il faut presser les joueurs comme des citrons et les forcer à se blesser. Beaucoup de joueurs en ont déjà parlé. Je sais que Lizzie il en a parlé à plusieurs reprises parce qu'il est concerné, lui qui était à un niveau très très haut et qui n'a pas pu donner tout ce qu'il avait à cause de l'enchaînement des tournois. Du coup, je voulais en parler parce que pour moi, ça a eu un impact fort sur l'année qui fait que, je pense, ne sont pas toujours les meilleurs qui ont gagné, surtout à la fin. Les mondiaux, on l'a bien vu, le niveau, je pense, il a été très très bas pour des mondiaux, même si, voilà, encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, on n'a rien contre ceux qui ont été champions. C'est parfois les plus frais qui ont gagné plutôt que les meilleurs. Les pays ne sont pas tous à égalité puisque certains ne participent pas à certains tournois. Les joueurs ont passé des mois loin de chez eux, entre des pays étrangers et des voyages en avion qui duraient 2 jours. Pas très écologique en plus. Donc voilà, ce calendrier de la fin d'année, c'était un peu la fausse bonne idée de la BWF.
Ouais, bah écoute, je trouve que t'as bien complété et t'as bien apporté tout ce que j'avais pas dit sur ce point-là. Voilà, je pense qu'on en a assez parlé, je partage toutes ces analyses et j'espère que la BWF apprendra de ses erreurs parce qu'en vrai, on leur tape un peu dessus, mais c'était la première fois qu'ils le faisaient. Clairement, si l'année prochaine ils apprennent pas de leurs erreurs, là on en discutera fort de la responsabilité quasi volontaire de la BWF dans ce système de tournée et d'accumulation de tournois.
Benoît, on va passer bientôt au top 3 et ça vaut bien une petite transition. Aimez-vous le badminton ? Oh non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Allez Benoît, on va commencer avec le podium. Quel est ton top 3 et surtout ta troisième chose à retenir de l'année ?
C'est tout frais, c'est arrivé il y a quelques jours, c'est le titre mondial de Lo Kin Yew, première médaille de l'histoire de Singapour au badminton, au mondiaux de badminton, première médaille d'or tout simplement dans un championnat du monde, tout sport confondu, pour un athlète de Singapour, c'est Lo Kin Yew qui l'a fait. Alors oui, il est né en Malaisie, Lo Kin Yew, mais le signe d'embrasser le maillot de Singapour à chaque fin de match, clairement, voilà, c'est pour rappeler que non, c'est pas un joueur malaisien. Lo Kin Yew, il a bien grandi à Singapour, il a appris le bad à Singapour, il a progressé à Singapour, et voilà, donc il a rendu un peu à Singapour hommage, j'ai envie de dire, à tout ce que le pays lui a donné. C'est le premier joueur qui a jamais été dans le top 20 mondial à être champion du monde. L'autre qu'il avait fait, c'était Lindan, mais il avait déjà été dans le top 20 mondial puisque c'était juste sur une année entre guillemets sabbatique. Je vais peut-être pas trop en parler parce que je sais pas si tu l'as dans ton top 3 en fait.
Alors je vais pas faire un point tout seul, mais juste pour répondre à ce que tu disais, j'en reparlerai peut-être rapidement, mais au-delà de toi, c'est vrai que t'as beaucoup insisté sur l'aspect de son pays, de sa nationalité, et t'as bien fait puisque c'est vrai que c'est historique, mais au-delà de ça, il y a la manière aussi.
Oui.
Le fait d'exploser Axelsen au premier tour et après, j'ai pas d'autre mot, de rouler sur tout le monde comme il l'a fait, j'espère que dans quelques années, on regardera son nom, on se souviendra historiquement de ce qu'il a fait, mais j'espère qu'on se souviendra aussi de comment il l'a fait, parce qu'il a vraiment été champion du monde avec la manière, c'est impressionnant ce qu'il a fait.
Ouais, c'est clair, c'est monstrueux, c'est probablement lui qui a eu le tableau le plus dur. Il bat Axelsen, il bat Antonsen, il bat Kidambi, et je vous parle pas du pauvre Wang Charoen, entre-temps, qui lui, j'espère que ce match sera oublié pour lui. Et puis plus sérieusement, ça fait quand même plusieurs semaines que Loki New, il est vraiment quasi à ce niveau-là. Il a gagné le ILO Open en Allemagne. Il fait finale en Indonésie face à Axelsen qui perd. Mais je regardais un peu les résultats et en fait en 2019, il a commencé à perfer. Il fait deux finales en Super 100, il gagne un Super 300 face au roi Lindan. Et en fait, je pense que le Covid a fait qu'on découvre Loki New uniquement cette année. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce qu'il y a eu, et Loki New serait probablement rentré dans le top 20 mondial bien avant et on se serait rendu compte de ses capacités, je pense, il y a un an ou un an et demi. Et en fait, c'est vrai que là, ça nous claque à la gueule sur des mondiaux. Mais je pense que c'était un peu une ascension programmée.
Ouais, moi... Je m'en souviens, quand on regardait les tableaux des JO, on le connaissait beaucoup maintenant, mais on l'avait vu dans la poule de Christie. On s'était dit, attention, Jonathan Christie, c'est clairement pas un cadeau de l'avoir dans ta poule. Au final, il avait failli le battre, hein, je crois, Christie le bat en 3-7. Donc voilà, les JO s'étaient terminés tôt pour Loki New, mais il s'est bien rattrapé avec une fin de saison stratosphérique. Et maintenant, on peut parler aussi du fait que son explosion, ça correspond aussi au fait... qu'il soit allé s'entraîner un mois à Dubaï avec Victor Axelsen. Je pense que ça lui a fait du bien. On a d'ailleurs appris qu'il allait le refaire en février après la tournée en Inde. Il devrait retourner s'entraîner un mois avec Axelsen. Je pense que ça lui a fait du bien aussi cette période. Et maintenant, ça se voit que c'est un homme en confiance qui a clairement les armes pour embêter n'importe qui, en fait.
Ouais, c'est ça. Il l'a même déclaré. Hein. Il l'a dit ouvertement. Il a dit mon entraînement avec Victor Axelsen, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me rendre compte à quel point je pouvais être fort. Donc voilà, je pense qu'on peut pas être plus clair. Et en même temps, c'est un bel hommage aussi pour Axelsen, je trouve. Le fait que Axelsen a su faire venir, finalement, c'était une de nos inquiétudes, mais des top joueurs mondiaux. Là, t'imagines que le champion du monde et le champion olympique vont encore s'entraîner ensemble. Bah écoute, j'ai envie de te dire que ça a l'air bénéfique pour les deux. Et c'est assez rare aussi qu'un globe-trotteur, j'ai envie de dire, comme Loki New, parce que finalement, il s'est entraîné en Europe, il s'est entraîné un peu à l'INSEP, Loki New, il s'est entraîné au Danemark, il s'est entraîné avec Victor Axelsen à Dubaï. C'est pas le profil type du joueur qui va réussir, en fait, et je trouve ça assez cool que du coup il a eu les bonnes stratégies finalement au fil des années, et aujourd'hui c'est la récompense, elle est suprême.
Clairement, ouais. Moi je reparlerai un peu dans mon point d'après. Là, je vais parler pour mon troisième point. J'ai titré le Japon très décevant pour ses JO, pour ses JO entre guillemets, puisque voilà les JO de Tokyo, et le Japon finalement qui n'a pas eu les résultats estimé et attendu. Une seule médaille, elle est en bronze, elle est pour Watanabe Higashino en mixte, mais en plus médaille de bronze, mais vraiment avec, je trouve l'impression qu'il pouvait pas faire mieux, que les médaillés d'argent et d'or étaient bien au-dessus. Pas de médaille pour Yamaguchi, Okuhara, évidemment Kento Momota, Endo Watanabe, Kamura Sonoda. Le double dame quand même, bon, ils n'ont pas eu de chance avec la blessure de Hirota, je crois, ou Fukushima, je ne sais plus, mais bon, pas de médaille pour Fukushima Hirota, pour Matsumoto Nagahara, bref, des JO ratés pour le Japon, je pense qu'on peut le dire. Il y a une petite page qui s'est tournée, notamment avec la retraite de Hiroyuki Endo. Voilà, ils n'ont pas eu de chance parce que Kento Momota revenait, il n'y avait pas de public, la blessure en double dame, je l'ai dit, mais il n'y a pas que ça. Et voilà, malheureusement, c'est des JO ratés pour le Japon.
Ouais, je rebondis pas parce que j'en parlerai dans, je pense, quelques minutes. Moi, j'ai mis la catastrophe japonaise à Tokyo, donc j'en reparlerai après. Est-ce que je te laisse enchaîner sur ton numéro 2 ?
Ben, je vais enchaîner tout de suite, si tu veux. Je l'ai titré « La montée des outsiders ». Et alors là, j'ai mis pas mal de gens. J'ai mis du Oki Kobayashi, du Li Wang, du Loki New et Matsuyama Shida. C'est les quatre qui m'ont fait forte impression. Que j'appelle « outsider », c'est des pairs ou un joueur qu'on connaît depuis quelques années, mais qui a toujours joué les seconds rôles jusqu'à maintenant. Li Wang, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, parce que je préparais un peu mon point, mais maintenant, on a l'impression qu'ils sont installés et qu'ils sont champions olympiques. Mais au début de l'année... je le redis, mais le 1er janvier, ça restait une paire secondaire, quoi. Donc, Oki Kobayashi, ils sont champions du monde, vice-champion du monde il y a 2 ans, mais c'était toujours la troisième paire japonaise, loin de Endo Watanabe ou Kamura Sonoda. Matsuyama Shida, qui font le doublé en Indonésie, c'est un peu pareil. C'était une paire dont on ne parlait pas trop, on parlait quasiment toujours des autres japonaises. Loki New, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, donc je ne vais pas le redire, mais il a 24 ans, donc on le connaît depuis quelques années, mais on ne l'attendait pas à ce niveau. Et je ne sais pas si c'est le Covid ou voilà, cette année particulière, ou comme je l'ai dit avant, un calendrier particulier, mais ça a rebattu les cartes, ça a clairement rebattu les cartes. J'aurais peut-être pu mettre Lizzie dedans, mais lui était déjà peut-être un peu plus connu. Ouais. Mais donc voilà, ça a rebattu les cartes et on a vu des paires ou des joueurs monter très très vite et très très haut aussi, hein, parce que c'est quand même incroyable que ce soit pour les quatre que j'ai cités là, c'est pas juste un seul tournoi, c'est sur plusieurs semaines d'affilée être excellent. Et du coup, la question que je pose, que ce soit pour Oki Kobayashi, Li Wang, Loki Niu, Matsuyama Shida, c'est et maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à garder ce niveau-là? Et est-ce qu'ils vont réussir à le garder quand les actuels favoris ou les anciens favoris reviendront à leur top niveau? Donc voilà, en point 2, je mets tout ça.
Ouais, effectivement, mais du coup, j'ai parlé quasiment de tous tes points du point 2 avant, donc je vais pas revenir dessus. Je te rejoins totalement sur ton analyse. La question maintenant, ça va être de savoir à quel point ils peuvent perdurer. Évidemment, c'est une question très très compliquée, notamment pour Matsuyama Shida, parce que elle, je pense même au-delà de leur performance, je pense même à la place que le Japon va leur laisser en fait. Parce qu'Oki Kobayashi, très bien, les autres ont pris la retraite, mais Matsuyama Shida, les autres n'ont pas pris la retraite, elles ont juste été blessées quelques temps, maintenant elles vont revenir. Est-ce que Matsuyama Shida, on va pas leur dire, bah écoutez, maintenant on vous rend le rôle que vous aviez avant, les autres, ça va dépendre plus d'eux. Matsuyama Shida, j'ai l'impression que ça peut aussi dépendre de la fédération japonaise.
C'est vrai, après je pense que le Japon, ouais, ils ont un peu, j'ai l'impression, écarté Matsutomo Takahashi quand les résultats suivaient plus. Oui. Je me dis que c'est peut-être un peu plus au mérite, entre guillemets, que d'autres fédés. Je me dis que si elles vont contester les titres des joueuses qui sont mieux classées qu'elles dans leur pays, ben, la fédé pourrait leur laisser plus de place. La question, c'est, je ne sais pas si c'est... Il y a forcément une part psychologique, tu vois, de là. Mais c'est d'autant plus impressionnant de dire, bon, ok, on est la troisième paire de notre pays. Là, en deux blessures, on vient de passer premier. Maintenant, il faut qu'on y aille, tu vois. Et j'espère pour elles qu'elles ne vont pas rentrer dans le rang maintenant que les autres paires japonaises reviennent.
Ouais, bah écoute, j'espère aussi. C'est un peu les questions. Et enfin, là, on n'a aucune réponse, clairement, et on n'en aura pas avant 2022. Mais c'est vrai que c'est des questions intéressantes parce que c'est des joueurs qui ont fait plus que performer. Et on parle de, pour là, Loki Niu, Oki Kobayashi et Li Wang, on parle de titres mondiaux et titres olympiques. Donc, c'est vrai que savoir s'ils vont confirmer, clairement, après 2016, Gotan, on n'était pas loin de dire que c'était le futur du double homme mondial. Vous savez ce qui s'est passé après.
Benoît, quel est ton deuxième point?
Et mon numéro 2, tu en as parlé tout à l'heure, je l'ai mis très très haut peut-être, mais moi c'est Poivaranukro Taira Tanachai. Pour les raisons que tu as évoquées, effectivement, les titres, évidemment, le triplé en Thaïlande à domicile en janvier est quelque chose quand même de... Je sais pas si on l'attendait, on connaissait un peu leur niveau, on savait qu'ils étaient capables d'être tout le temps dans les derniers carrés, mais là ils ont pas juste été dans les derniers carrés, ils ont tout gagné en fait. Et ensuite, il y a la finale au Danemark, la victoire à la Hilo Open, le triplé en Indonésie, et enfin champion du monde. Pour rien te cacher, si je les ai pas mis numéro 1, c'est juste parce qu'il n'y a pas de médaille olympique, hein, clairement. Mais je trouve qu'ils sont numéro 1 mondiaux. Je l'ai pas dit, mais ils sont numéro 1 mondiaux du double mix. Alors oui, pas de chinois, mais toujours est-il que c'est pas Watanabe Higashino, c'est bien eux. C'est beaucoup de points qui font que pour moi, ils devaient être très haut dans ce classement. Et en plus de ça, je sais pas si tu partages, mais on a toujours dit que c'était une paire constante, très forte. Peut-être comparable à Poli Rahayu, en fait. Un tout petit peu plus fort, à mon sens. Mais pas une paire capable de dominer. Et moi, je trouve que cette année... Encore plus sur la deuxième partie de saison, mais c'était déjà le cas en Thaïlande. J'ai l'impression qu'ils ont step up et maintenant ils savent gagner des tournois.
Clairement, ouais. Bah moi, je ne vais pas en revenir dessus parce que j'en ai clairement parlé. Mais en plus, je rajouterais peut-être qu'ils sont très impressionnants à voir, je trouve. Oui. Ils sont assez petits tous les deux, mais ce qu'ils font, c'est très très impressionnant. Et ouais, moi, c'est toujours une paire que j'aime voir jouer.
Ouais, ils sont plaisants à voir jouer. Enfin, je pense que. Qui aime le double homme pour avoir un Ukrotaira Tanachai, c'est spectaculaire en fait. Il y a de la vitesse, ça va, les deux se déplacent vite et puis c'est des balles rebondissantes sur un terrain, c'est assez ouf. Et moi je j'aime beaucoup leur jeu clairement, donc ouais, voilà pourquoi je les ai mis aussi haut.
J'ajouterais que Saspirita Tanachai, elle fait des super vlogs en plus, donc franchement j'adore, je suis trop fan. La voir faire des danses TikTok avec Chen et Jia. Une semaine avant que les trois soient championnes du monde, moi ça me vend du rêve.
Tu m'étonnes.
Oh my goodness.
Benoît, tu choisis. Est-ce que tu veux dire ton numéro 1 ou alors je commence, comme tu veux?
Peut-être que les gens se doutent de mon numéro 1, donc je te laisse aller sur le tien.
Le mien est peut-être un peu prévisible aussi, tu l'as dit d'ailleurs, mais moi je l'ai mis plus haut et je l'ai titré. C'est le premier auquel j'ai pensé et j'ai laissé le titre que j'avais mis au début, c'est « L'année de fou furieux » de Victor Axelsen. Pour moi, c'est mon numéro 1 parce que, il n'a pas fait de médaille aux mondiaux, mais rarement, un joueur dans n'importe quelle catégorie n'aura dominé son tableau à ce point-là. Je pense que Li Chongwei l'a un peu fait, mais sans titre majeur, évidemment. Lindan l'a fait par instant. Momota l'a fait aussi en simple homme. Les Chinois, par exemple, Zheng Wang l'ont fait récemment en mixte, mais peu l'ont fait à ce point-là. Je trouve qu'il a donné une impression de force dans les titres qu'il a gagnés. Donc, il est champion olympique, il a gagné les finals, il a gagné le Denmark Open, l'Indonesian Open et le Swiss Open. Une impression de force, une impression de maturité qu'il n'avait pas du tout avant. J'ai mis année de fou furieux parce qu'il y a le terrain et il y a ce qui est en dehors, c'est-à-dire son déménagement à Dubaï. C'est pas cette année que sa fille est née, mais je pense que ça a pas mal changé sa vie aussi. Donc voilà, et je voulais dire aussi qu'il est en train, surtout avec ce déménagement, le fait qu'il s'émancipe de la fédération danoise, je trouve qu'il est un peu en train, et son caractère a pas mal changé, après on aime ou on n'aime pas, mais il me fait de plus en plus penser à Lindan, tu vois, au niveau du caractère et du statut. Donc pour moi, ça devait être mon numéro 1, et j'ai hâte de voir s'il va confirmer, parce que voilà, c'est plus le même Victor Axelsen qu'avant, et force est de constater que même si il perd en finale du All England, il perd contre Pranoy en Indonésie et donc contre Lokinyu, futur champion du monde, en Espagne. Mais malgré cela, pour moi, c'est mon numéro 1, l'année de dingue qu'a vécu Victor Axelsen.
Et je le comprends totalement. Ne vous indignez pas, les fans de Lindan. Axelsen n'aura jamais le charisme de Lindan. Je dis bien jamais. Mais c'est vrai que je me doutais, en fait, que tu allais faire cette comparaison, parce que je la partage totalement. Je trouve qu'Axelsen, je dirais pas qu'il s'est découvert une personnalité, parce que ce serait vraiment réducteur et insultant pour lui, mais c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas hyper fan, alors que j'étais plutôt très très fan de Lindan, mais c'est vrai que Axelsen se révèle, on va dire, au grand public. Après, libre à chacun de se faire son avis là-dessus, mais je partage totalement ton analyse sur son départ et son changement de vie, clairement.
Et je rajouterais aussi que ça reste le deuxième titre olympique pour un Danois et donc pour un Européen en simple homme. Donc voilà, je voulais... Il y a eu beaucoup de tournois depuis, donc limite on parle moins des JO, mais ce qu'il a fait, et surtout qu'en plus il met des tolls à tout le monde.
Comment il l'a fait,
comment il corrige Chen Long en finale, cette impression de force, et c'était quand même une belle image, parce qu'on voit que les JO ça représente énormément pour lui, et on se souvient que ça l'avait beaucoup touché, sa médaille de bronze il y a 5 ans, et voir cette médaille d'or, on voit que ça a été énorme pour lui aussi. Donc voilà, et je voulais parler de lui parce que... Parce que voilà, il a vécu une année vraiment historique. Mon numéro 1 maintenant, fin au suspense, pitié.
La catastrophe japonaise à Tokyo. T'en as déjà pas mal parlé. T'as parlé de Momota, t'as parlé de Endo Watanabe, Kamura Sonoda, mais au-delà de la catastrophe de Tokyo, en fait, moi je voulais souligner qu'on avait vu cette année que le Japon savait gagner des titres. Et en fait, c'est là que c'est terrible. Le Japon aurait raté ses mondiaux derrière, tu te dis, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment capables? Sauf que oui. Parce que Oki Kobayashi sont champions du monde, mais c'est des mecs que t'as pas amené au jeu. Alors, j'entends, c'est vrai, totalement vrai, que Kamura Sonoda et Endo Watanabe se sont qualifiés sur le terrain. Mais est-ce que, finalement, le retrait de ces joueurs-là n'a pas été fait trop tard? Et en fait, quand tu vois, moi c'est là que j'ai un reproche à faire, c'est quand tu vois les moyens qui ont été mis par le badminton japonais pour développer ces joueurs-là, et... tu te dis, putain, en fait, là, il y a eu peut-être une erreur stratégique, et j'en vois aussi une autre erreur stratégique, c'est d'avoir amené Fukushima Hirota. Alors, j'entends, elles se sont qualifiées très bien, mais on a parlé de Matsuyama Shida, t'en as très bien parlé. Pourquoi ne pas avoir amené Matsuyama Shida aux Jeux Olympiques? Ou pourquoi, après Takahashi.
Takahashi, pardon.
Elles avaient pris leur retraite, donc c'était difficile de les faire revenir. Mais connaissant les circonstances et la blessure avec la paire de Fukushima Hirota, pour moi, t'aurais dû amener Matsuyama Shida, et là, t'as fait des erreurs, des grosses erreurs stratégiques. parce que tu avais mis tous les moyens pour avoir quasiment 3-4 paires compétitives sur chaque tableau. Et en fait, au dernier moment, tu n'as peut-être pas été capable de prendre les bonnes décisions. Ça reste mon avis. Après, en simple dame, Okuhara, Yamaguchi, on sait qu'elles savent gagner. Okuhara est champion du monde, Yamaguchi est champion du monde cette année. Ben, le jour J, elles n'ont pas été capables. Kento Momota, c'est un peu la même chose. Alors oui, il y a des raisons différentes pour chacun, c'est évident. Maintenant, avec le budget qu'avait mis le Japon pour son développement dans le badminton, pour moi, c'est un échec cuisant, c'est un terrible échec, surtout que voilà, tous les joueurs japonais ont montré, et Kento Momota le premier, qu'ils étaient capables de battre à peu près tout le monde. Et ben, sauf que sur cette semaine-là à Tokyo, il s'est passé ce qui aurait jamais dû se passer, à mon avis.
Je suis totalement d'accord, et c'est vrai que surtout Momota, quand même, il a quand même un peu traversé cette année comme un fantôme. Hein. Il a beau gagner les Indonesia Masters, entre les blessures, le Covid, les tournois où il n'a pas participé, et sa blessure à la fin, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus de lui. Et ouais, je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit, sur les raisons. La stratégie n'a peut-être pas toujours été bonne, et ouais, c'est dommage, parce que se consoler avec une seule médaille de bronze pour le Japon... c'est clairement un échec, et je comprends que tu l'aies mis premier, parce que on attendait beaucoup de ces jeux, tout le monde, mais le Japon, je pense, les attendait particulièrement, surtout en bad.
Clairement ils avaient mis les moyens, que ce soit financiers ou techniques, pour que le bad soit une réussite, et clairement ça a été un échec. Et c'est vrai que voilà, pour moi le titre mondial de Okikobayashi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour le Japon, en disant les gars, Okikobayashi, ils étaient où? Ils étaient en fait en tribune, en train d'aller voir du judo probablement pendant les Jeux Olympiques. Enfin, c'est assez terrible en fait pour le Japon, et voilà pourquoi je l'ai mis aussi haut, parce que pour moi le Japon n'aura pas des JO tous les jours, et pour moi c'est peut-être une catastrophe pour eux, en tout cas en termes de sport, sur les 20, 30, 40 prochaines années.
Benoît, on a dû faire un top 10,
et oui.
Évidemment on a dû laisser des choses en dehors de ce top 10. Est-ce qu'on a des mentions? Ça fait un moment qu'on parle, donc on va le faire très rapidement. Moi, je vais peut-être commencer.
Vas-y.
Je voulais parler de Carolina Marin, mais tu l'as déjà fait, donc je ne vais pas le dire. J'avais deux choses. Il y en a une, je sais que tu l'as, l'autre, je ne sais pas. Je voulais parler de la très bonne année thaïlandaise, parce qu'on a parlé de Puavaranukro Teiratanachai, mais on a Jomko Kedren. On a vu que c'était pas mal. Jomko en mixte aussi, c'est pas mal non plus. En double dame, c'est plus compliqué, mais en simple homme, Wang Charoen ne fait pas une super année, mais Vichit Sarn, j'aurais pu le mettre, parce que je trouve qu'il commence vraiment à prendre un autre statut. Et surtout, en simple dame, Ombang Grumphan, qui a fait une grosse année. Donc voilà, je voulais mettre la bonne note thaïlandaise. Et je vais te lancer sur une mention qu'on a tous les deux. C'est la sensation, une autre sensation de ces JO, c'est évidemment Kevin Cordon.
Ouais, Kevin Cordon, j'avais la Thaïlande effectivement, mais t'en as très bien parlé. Donc Kevin Cordon est un peu resté sur le bord de la route, pardonnez-moi l'expression. Le joueur du Guatemala, incroyable aux Jeux Olympiques, tout simplement. C'était peut-être encore plus que Pauly Raju finalement, qui font une médaille d'or. L'histoire des Jeux Olympiques pour le badminton, il aurait fait une médaille, clairement, c'était top 10 tous les jours. Le fait qu'il fasse pas médaille, ça a un peu changé mon avis sur sa place dans le top 10, mais voilà, clairement il faut rendre hommage à Kevin Cordon et ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques. Croyez-nous, vous n'êtes pas prêt de le revoir.
Ouais, il a 34 ans, il faut le rappeler, en simple homme, c'est très vieux. Pour un joueur de son classement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Est-ce que tu as d'autres mentions, Benoît?
Écoute, j'aurais pu parler de Chen Jia, qui font argent au jeu et or aux mondiaux. J'aurais pu parler des nouveaux boss au Wang Wang pour la Chine. Je ne sais pas si tu as des mentions chinoises.
Non, la Chine, je pense qu'on va en parler plus précisément et plus longuement dans un épisode. Donc, j'en ai pas trop mis. Donc, voilà, moi, j'ai plus de mentions, mais si tu as... Si t'as autre chose, tu peux y aller.
Mais écoute, j'ai encore deux petites mentions. Lydie Jia, j'aurais pu le citer comme Han Se-young, tu l'as fait. Moi, j'ai mis Lydie Jia, homme sans récompense, sur l'année 2021. Pour moi, Han Se-young, c'est un peu la même saison, les deux. C'est-à-dire qu'ils ont été, même si Han Se-young a été encore plus forte, Lydie Jia était très fort par moment, mais difficile de lui demander de tenir ce rythme sur toute la saison. Mais malheureusement, il n'a pas été fort, en fait, sur les grands événements. Donc voilà, et ma dernière mention, c'est Anton Sen. J'ai mis Anton Sen, le palier difficile à passer, parce que oui, il est champion d'Europe, mais il est champion d'Europe sur tapis vert. Au JO, il perd en quart de finale contre le futur médaillé de bronze. Au Mondiaux, oui, il fait une médaille de bronze, mais je pense qu'on l'attendait tous les deux un peu plus haut, sachant qu'Axel Sen n'était plus là. J'ai un peu l'impression que Anton Sen, moi perso, je le voyais capable de challenger Axel Sen un jour, et j'ai l'impression qu'il a vraiment des difficultés à passer ce dernier palier.
Ouais, non, moi je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il a été très très fort par moment, mais difficile pour lui de le garder. Et pour Ligia, pareil, je suis totalement d'accord. Et j'ai hâte de voir ces deux mecs-là en 2022. De notre côté, je voulais faire un mini bilan de nous, de notre année, pas pour se jeter des fleurs, mais surtout pour vous remercier. On a fait 63 épisodes cette année, celui-là est le 63e. On a interviewé Johan Penel quand il venait d'être élu président de la FFBAD, Tom Jiquel, Sabrina Jacquet avant les Jeux, Christo et Thomas Popov à Orléans, Thomas Rouxel, Nicolas Margerin, le président du Badminton Club Arras, et Franck Laurent, qui gère les Orléans Masters. On a fait des lives tous les jours pendant les Jeux. On est passé sur Twitch parler badminton avec le streamer Rivenzi, ça c'était encore trop cool. Et on était présent sur place au Orléans Masters et au IFB. On faisait des podcasts tous les jours pour la Fédé. Donc merci beaucoup à vous de nous suivre pour tout ça, parce que c'est en partie grâce à vous, aussi un peu grâce à nous, on va pas se mentir, qu'on peut faire tout ça. Et j'espère qu'en 2022, on pourra faire aussi bien, voire mieux, parce que voilà, on a pas mal d'idées. Là, j'ai pas pu citer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on veut faire, mais voilà, j'espère qu'on pourra avoir une année 2022 aussi riche. Et merci de nous écouter cette année. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir vécu cette année avec moi. C'était trop cool. On avait lancé le podcast tranquillement en 2020, mais il y avait moins de choses. Là, on a vécu une bonne grosse année et j'en ai kiffé l'intégralité.
Bah écoute, moi aussi, merci à toi déjà, et c'est vrai, merci à vous, parce que c'est vrai qu'Ewan nous a jeté des fleurs et vous en a jeté aussi, parce que oui, on pourrait continuer à faire ce podcast, mais c'est vrai que le fait que vous nous écoutiez fait aussi que ça nous donne envie chaque semaine de sortir un, deux épisodes, de trouver toujours de nouvelles idées. Moi j'avais aussi envie de remercier Marius et Anne qui sont venus, c'est des potes à nous, hein, on va pas se mentir, mais ils sont venus faire des épisodes avec nous. C'est jamais un exercice facile et c'est très cool. Je pourrais remercier beaucoup de monde, mais je vous remercie vous pour tous vos messages sur les réseaux sociaux aussi, c'est toujours cool de discuter. Et voilà, le podcast va continuer en 2022, en tout cas, c'est sûr, avec de nouvelles idées. On espère toujours plus de... On ne sait pas, peut-être commenter un jour à la télé, on n'en sait rien, pour la Fédé, ou voilà, on a vu cette année qu'on pouvait faire pas mal de choses, et voilà, on aura beaucoup d'idées pour le futur, donc merci à vous, et merci à toi, Ewan.
Voilà, donc, évidemment, comme Benoît l'a dit, on continue le podcast en 2022. On se prend une pause, une petite pause d'une semaine. Du coup, pas de podcast le 3 janvier, mais on revient dès le 10 janvier pour le débrief de la cinquième journée de Top 12. Et derrière, on va enchaîner avec la tournée indienne. Merci beaucoup de nous écouter. Passez une belle fin d'année pour les quelques jours qui restent. On se retrouve le 10 janvier. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。在经历这平凡。